Garde aux voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. La parole est à ceux qui veulent entreprendre en Afrique. Bonjour Didier Akwété.
Bonjour Emmanuel Bastide.
Le coach qu'on ne présente plus, directeur fondateur d'Afrique Search, société de conseil en ressources humaines. Et vous êtes tous les mois avec les 7 milliards de voisins pour donner un petit coup de pouce aux jeunes diplômés ou aux moins jeunes qui ont des idées, qui ont parfois même démarré des startups, qui ont besoin de parler de leurs blocages, de leurs interrogations pour aller plus loin, plus efficace. Que des élections finalement pour faire avancer le continent, faire émerger une génération de patrons, de PME, talentueux, responsables. Allez les voisins et les voisines, vous connaissez la formule mensuelle de l'émission. Vous avez un projet commercial ou social, Didier Akwété vous écoute, détecte les points forts, les points faibles de vos projets et c'est à vous de nous convaincre. Et Didier est plus sympa que dans l'émission américaine Shark Tank, le bassin des requins. Vous connaissez cette émission américaine?
Oui, c'est vrai, je suis un peu plus aimable.
Ouais, des investisseurs.
Peut-être qu'en 2020, on va bâcher.
Des investisseurs potentiels qui mettent sur le grill des entrepreneurs.
C'est incroyable.
You're making a difference in the world. That's pretty important to me.
But the question is, will the sharks bite?
$500,000 for 10%.
$500,000 for 10%.
Well, that's what my offer was, and I was first.
Allez, vous aussi, vous allez bâcher en 2020, vous allez devenir un requin pour bâcher les...
Ils vont crever dans la vallée de la mort, je vous le dis, moi.
Allez, pour l'instant, il vaut mieux appeler à la maison, hein. Chez nous, chez 7 milliards de voisins, avec le coach Didier Akwété, 33 1 84 22 71 71. Alors, en 2019, puisque ça y est, on est en 2020. D'ailleurs, bonne année, Didier.
Bonne année, Emmanuel. Que de bonnes choses et plein de bonnes choses pour les JPAG et la jeunesse africaine.
Et vous revenez, vous étiez le mois dernier à Khartoum.
Oui, au Soudan, effectivement. J'ai rendu visite à la Banque Arabe pour le développement économique en Afrique, qui investit beaucoup dans les infrastructures publiques en Afrique, mais qui surtout s'oriente résolument vers le secteur privé, les PME, et donc va énormément investir dans les entrepreneurs, les petites entreprises en Afrique, et le secteur privé, puisque c'est un des piliers de leur stratégie. Et lors de cette visite, j'ai découvert une jeunesse soudanaise extrêmement dynamique, émancipée, qui s'exprime, qui a envie de reconquérir un pays, vous savez, dont on a une lecture extrêmement négative. Et donc, c'est extrêmement enthousiasmant de rencontrer cette jeunesse. Et puis surtout, la BADEA, qui est un programme de jeunes professionnels de YP, où on a rencontré pendant toute une matinée une quinzaine de jeunes diplômés qui ont rejoint la BADEA, qui venaient aussi bien d'Afrique, d'Europe, des États-Unis, et qui sont au Soudan, qui sont à Khartoum, qui ont décidé donc de vivre au Soudan, et qui ont
et
une vision...
Et d'entreprendre, du coup.
Qui travaillent pour l'instant à la BADEA, donc dans les différents départements de la BADEA, mais qui ont surtout une vision extrêmement optimiste du Soudan et de l'Afrique. Et en fait, c'est ça qui était impressionnant. Non seulement c'est des jeunes qui sont bien formés, qui ont une vraie vision pour l'Afrique et qui ont envie de transformer l'Afrique. Et donc, à l'image un peu de ces JPAG, dans ces organisations, je pense que si on donne aux jeunes Africains les moyens de s'exprimer économiquement, les moyens de s'exprimer en termes d'entrepreneurship et même de prise de décision dans nos organisations, nous allons vraiment transformer l'Afrique. Et donc, c'est une année 2020 qui me semble bien commencée, y compris dans des Soudans, aussi inespérés.
C'est ça. Et donc, en dépit des difficultés, des conflits, etc., et le témoignage et les appels de certains de nos auditeurs le confirment, il y a cette capacité de résilience qui est assez incroyable. Vous nous appelez maintenant, les voisins et les voisines, où que vous soyez sur le continent africain, pour dialoguer avec le coach Didier Akwété, 33 1 84 22 71 71. Vous, évidemment, devez pouvoir exposer très clairement, très efficacement et de manière très convaincante votre projet, votre petite entreprise qui a démarré, qui est encore jeune et qui a besoin de voir plus loin et d'avoir une stratégie parfois mieux pensée.
7 milliards de voisins.
Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
Allez, on donne la parole à un premier entrepreneur, MacArthur, qui nous appelle de Ouagadougou, qui a 34 ans. Bonjour MacArthur.
Oui, bonjour.
MacArthur, vous avez alors, un petit mot sur votre parcours. Vous avez une licence professionnelle d'ingénieur de travaux au CEFIG, qui est une école supérieure privée à Ouaga, hein, c'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça.
Mm-hmm. Et vous avez créé, il y a un peu plus d'un an, l'entreprise Nice, qui fabrique et qui commercialise des logements en briques de latérite. C'est de la terre crue, c'est ça exactement ?
Oui, c'est de la latérite, la terre rouge.
Mm-hmm.
Alors effectivement, nous avons créé cette entreprise il y a moins d'un an. Et nous faisons des briques en terre compressée. Et à partir de la latérite, il y a un peu de ciment. Le tout est passé par une machine que l'on compresse. Et ce sont les briques-là qui sont utilisées pour les constructions.
Quel est le pourcentage de ciment dans ces briques en terre compressée ?
Alors, elles varient entre 8 et 10% de ciment par brique.
Donc, voilà. Vous fabriquez ces briques, vous concevez aussi des logements ?
Exactement, parce que nous faisons de la clé à main. Lorsqu'un client nous contacte, nous pouvons offrir les briques et en même temps faire la construction du logement en question.
Pourquoi vous avez choisi ces matériaux ?
Alors, il faut dire que nous avons la matière première qui est la latérite à provision. Elle est vraiment disponible en Afrique ici.
Ouais.
Et le coût des matières que l'on disait avant pour les logements comme le ciment, le fer, coûte assez cher.
Ah bah ça, je vous le confirme. Le ciment, le prix du ciment en Afrique, c'est 3 fois plus cher que dans le reste du monde.
Exactement. Et ce qui fait que construire un logement ici vraiment relève d'un parcours de combattant.
Mm.
Donc cette solution que l'on a trouvée est une alternative au logement. Parce que avec cette solution, nos logements sont économiques, écologiques et esthétiques.
Et accessibles à une plus grande part de la population, c'est ça ?
Exactement, exactement.
Le prix d'une maison comme ça, par rapport à une construction en parpaing de ciment, c'est quoi ?
Alors, il faut dire qu'avec les constructions en briques en terre compressée, on peut économiser jusqu'à 30% de son budget de construction par rapport aux briques en parpaing.
Donc c'est 30% moins cher qu'une maison en parpaing ?
Exactement.
Et par rapport à...
Vous pouvez économiser 3 millions.
Ouais, on peut économiser 3 millions sur une maison de 10 millions francs CFA. Et par rapport au banco, exactement. Par exemple ?
Actuellement, le banco n'est plus beaucoup utilisé comme ça, vu qu'avec les intempéries, ça tente à s'effriter.
Ouais,
on n'est pas fini longtemps. Voilà, donc,
et vous, c'est solide parce qu'il y a ce petit dosage de ciment dans la terre compressée, dans la latérite, c'est ça ?
Ah oui, parce que la pression exercée par la machine, c'est une pression de plus de 10 tonnes. Donc la brique est plus solide qu'une brique en parpaing ici que nous avons. Non seulement elle est solide, et elle est une brique pleine.
Mm-hmm.
Voilà, plus solide.
Vous ciblez des particuliers ?
Oui, notre clientèle est diversifiée, particuliers, l'État à travers les projets de construction d'écoles, de centres de santé, les ONG également, les communautés religieuses. Vraiment, nous avons une clientèle diversifiée.
Alors, vous n'avez pas envoyé de business plan. Moi, je me suis demandé pourquoi, parce que vous en avez forcément un. Vous avez gagné, vous avez été retenu en 2018 par le programme du gouvernement Burkina Startup qui finance de jeunes porteurs de projets innovants. D'ailleurs, vous avez eu 50 000 francs CFA, 76 000 euros. Ça vous a permis de démarrer vos activités. Vous avez été lauréat du concours de la Fondation Tony Elumelu, 4 500 euros. Vous avez aussi été finaliste dans un concours financé par la coopération luxembourgeoise. Et là aussi, vous avez été du coup incubé pendant un an et vous n'avez pas envoyé de business plan à Didier à côté.
Qu'est-ce que ça cache, MacArthur ? Bonjour, MacArthur. Qu'est-ce que vous nous cachez ?
Ah non, je ne vous cache absolument rien. Alors, c'est vrai que je n'ai pas envoyé le business plan. Donc, c'est une erreur de ma part où je n'ai pas bien compris la communication en ce sens.
Parce que là, pour le moment, vous avez construit quoi ? 2 maisons témoins qui sont commercialisées ?
Exactement.
Ouais. Et vous êtes une équipe de 12 personnes. Vous avez des questions à poser au coach. Hein. Il est là, il vous écoute en tout cas.
Vu que nous évoluons dans la construction de maison, il y a beaucoup de clients qui nous appellent pour demander des devis et des plans. Alors, vu que nous commençons, nous pouvons recruter un technicien pour les plans et tout ça. Comment est-ce que nous pouvoir offrir des plans à nos clients ? Bien sûr, gratuitement, puisqu'on peut faire payer un client pour ça. Et vu que aussi nous n'avons pas les moyens pour recruter un technicien en bâtiment pour nous faire des plans.
Pourquoi vous ne pouvez pas facturer dans un premier temps les plans ?
Alors, vu la mentalité de nos clients ici, ça sera difficile de les facturer ça. Ils vous appellent, ah, j'ai besoin de 2 chambres salon, combien ça peut me coûter ?
Eh oui.
Vous voyez déjà.
Ouais, ils ne veulent pas payer le plan et le devis.
Voilà, exactement.
MacArthur, comment financent-ils leur maison, la plupart des clients qui viennent vous voir ?
Alors, il faut dire que 90% des clients qui construisent ou vous connaissez sont Les cautions sont faites sur les prêts bancaires.
Très bien.
90%.
Parfait.
Il faut bien dire aussi que 90% des habitants des villes en Afrique habitent dans des logements qui sont construits par eux-mêmes, hein, pour ou par un voisin qui les aide. Donc effectivement, on n'est pas dans la culture de payer des plans pour commencer.
Effectivement, le marché d'immobilier est en pleine explosion en Afrique, comme on le sait, avec, comme vous le disiez, un prix du ciment qui monte en permanence et qui profite de cette explosion. Alors qu'on peut faire beaucoup mieux que ça, je suis d'accord, en termes de coûts de production et de coûts de vente, quoi, prix de vente. En fait, je posais la question de savoir comment ils financent leur maison. S'ils financent leur maison par les banques, ça voudrait dire que vous auriez aussi intérêt à avoir un partenaire qui est la banque. Généralement, la banque qui finance peut tout à fait intégrer dans son financement le coût lié au plan. Et vous savez qu'une banque, quand elle finance, bien sûr, elle vous demande une garantie, un salaire ou enfin des revenus, mais aussi elle essaie de voir quand même si ce que vous allez faire tient la route et est sérieux, parce que la banque ne veut pas financer quelque chose qui n'existe pas ou qui va s'écrouler au bout de 2 mois. Donc vous devrez avoir un prescripteur, entre guillemets, qui est la banque, ou du moins, qui intègre dans son financement le coût du plan, puisque le plan est très important quand même quand on fait une maison. Deuxièmement, vous avez un autre acteur qui est constitué par les notaires. Et vous savez que généralement, quand la banque finance, le prêt est en fait notarié, donc vous passez chez un notaire, et qui peut aussi tout à fait être un de vos interlocuteurs privilégiés pour avoir accès dans les frais, puisqu'il y a des frais de notaire qui sont payés, donc les frais liés au plan peuvent tout à fait aussi être intégrés en amont. Mais une fois qu'on a dit cela, qui est bien sûr une façon de construire un modèle économique à travers ceux qui financent, vous savez, il y a des logiciels hein, qui font des plans en quelques minutes. Une fois que vous mettez la superficie, vous mettez le nombre de pièces que vous voulez, il vous le sort en 2-3 minutes, pas cher du tout, pour que ça constitue une sorte de produit d'appel. Effectivement, si vous vous lancez dans des plans avec un architecte, des ingénieurs, vous ne pouvez pas supporter ce coût, mais c'est un peu l'ubérisation du plan. Trouver un logiciel qui vous permet de le faire très vite et pas cher, comme une sorte d'offre d'entrée. Et une fois que le prospect ou le client veut quelque chose d'un peu plus sophistiqué, et ben là, une fois qu'il est séduit par cette première approche, il pourra tout à fait payer. Et je sais que moi-même, j'ai eu à utiliser dans le passé ou des amis, des logiciels qui sont pas chers, qui vous sortent des plans de temps en mouvement.
Vous n'avez pas souhaité... On peut aussi passer par des étudiants qui font maintenant ces plans-là assez rapidement, qui sont dans des écoles de techniciens supérieurs, d'ingénieurs.
Absolument. Parce que les plans qu'ils vous demandent, il ne faut pas que ce soit... le plan que réalise un architecte, un plan complet. Sauf si c'est ce que vous leur offrez, vous leur proposez.
En fait, ce qu'il faut, c'est un plan 3D en 3 dimensions. C'est ça qui donne envie. Hein.
Ah bah bien sûr, qui se fait très vite avec des logiciels. Vous avez essayé cette option. Pourquoi vous n'avez pas éventuellement pris ce genre de piste?
Est-ce que vous manquez dans votre équipe de 12 personnes, il vous manque quelqu'un qui peut faire ce type de plan très rapidement, quitte à ce que ce soit des plans très stéréotypés finalement?
Alors, c'est vrai que nous n'avons pas abordé la question du logiciel qui peut nous le faire rapidement. On va vraiment s'y mettre. Bon, c'est vrai que dans l'équipe de 12 personnes, c'est beaucoup plus de gens qui sont dans la construction et dans la production des briques. Donc, nous faisons appel à un prestation extérieur.
C'est ça. On voit bien que pour l'instant, vous êtes quand même énormément concentré sur la qualité des briques. Et c'est très bien, c'est essentiel. Mais maintenant, effectivement, il faut voir l'alliance avec... Vous avez parlé de banques, de notaires. Il peut y avoir des sociétés immobilières aussi.
Absolument.
Est-ce que vous avez rencontré une banque, non pas pour prendre un crédit, puisque de toute façon, vous avez gagné pas mal de concours. Et là, vous avez un petit peu d'argent devant vous. Mais ne serait-ce que pour travailler avec une banque qui elle-même octroie des crédits à des particuliers qui construisent?
Oui, actuellement, nous sommes en pourparlers avec 2 institutions financières, une banque et une microfinance, pour avoir un partenariat.
Donc,
pour envoyer nos clients vers eux, afin qu'ils les financent, pour qu'ils puissent maintenant acquérir un logement.
Tout à fait. Et même sans cela, vous pouvez tout à fait aller voir les banques à Ouagadougou en leur disant « Les financements immobiliers sont relativement importants aujourd'hui au niveau des banques et vont l'être de plus en plus. » Donc, si vous allez voir les banques en disant « Nous offrons... » une alternative non seulement intelligente, économique, efficace, écologique, aujourd'hui en matière de construction, les banques seront tout à fait réceptives. En plus, vous êtes une jeune entreprise, une start-up avec une innovation. Et les banques seraient probablement...
Il y avait plusieurs références de prix de concours gagnés.
Absolument heureuse de dire qu'elles soutiennent une entreprise comme la vôtre, surtout si votre produit répond à toutes les normes. Et du coup, les banques pourraient tout à fait vous recommander aussi. C'est-à-dire, lorsque un client vient les voir pour demander un crédit, on dit, bah tiens, nous travaillons avec NICE SARL, évidemment sans engagement de notre part, mais vous pouvez aller les voir. Et le coût de NICE, nous le connaissons, comme par exemple les coûts des notaires. Hein, ils vont vous dire, bah, NICE, pour vous faire un plan, selon le terrain et le nombre de pièces, ça va être autour de tant de milliers de francs. Et donc, c'est intégré tout de suite en amont. Donc, parlons une construction plus en amont et une approche beaucoup plus marketing. Aujourd'hui, vous êtes plus sur l'approche technique. On fait un bon produit, on livre un bon produit, ce qui est excellent. Maintenant, regardez la partie commerciale et marketing où vous allez faire plaisir à de nombreux clients en 2-3 minutes. Hein. Vous donnez à un client une maison en 3D, il est tellement heureux. Et ça, c'est fait en 5 minutes.
Alors, sur un justement, logiciel. À propos du plan, une dernière petite question, MacArthur. Je sais que vous êtes un peu réticent aussi à livrer un plan parce que vous avez peur ensuite que le client parte avec son plan, très content, et qu'il s'adresse à un maçon ou à lui-même ou à la famille et construisent une maison à partir de ça, sauf qu'il n'aura pas vos briques. Donc, pourquoi vous avez cette peur-là, finalement?
Alors, comme je disais tantôt, s'il faut trouver une personne pour élaborer un plan et payer cette personne, on n'a pas cette assurance que le monsieur qui va prendre son DV, son plan, il ne va pas voir ailleurs.
Mais voilà. Oui, mais de toute façon, votre valeur ajoutée, ce sont vos briques compressées de latérite. Hein. Quel est l'intérêt de Exactement. Construire cette maison avec du ciment? C'est pas ça. Vous vendez un concept d'une maison plus durable, 30% moins chère, avec des matériaux locaux, etc.
Vos concurrents offrent les mêmes services que vous? Parce que je crois que vous avez dit qu'il y avait deux concurrents sur le marché.
Exactement. Il y a deux concurrents sur le marché qui font exactement la même chose.
D'accord. Donc vous avez peur qu'ils n'aillent acheter les briques chez les concurrents. C'est ça, en résumé.
Voilà, c'est possible, ouais.
Bon, vous savez, en fait, là vous êtes sur un marché. Si vos prix sont attractifs, équivalents à ceux des autres, lorsque le client va choisir, il va choisir celui qui lui offre le plus de services. Donc si vous offrez un plan à un client, un plan qui ne vous coûte pas très cher, le client se dit, mais nice, ils sont vraiment nice, ils sont sympas, ils nous ont fait un plan gratuitement, ils vont nous suivre, et en plus le prix de leur brique est équivalent à celui des autres. Donc pourquoi est-ce que j'irai voir les autres? En fait, vous construisez votre avantage concurrentiel en offrant des services, à ce qu'on appelle des services à valeur ajoutée. Donc, c'est un plus. Après, si vous voulez aussi, mais bon, ça, peut-être je ne vous recommande pas aujourd'hui, c'est de dire, je peux vous faire un plan gratuitement. Mais attention, si vous n'achetez pas mes briques, vous devrez me payer le plan. Et bien, ça vous coûtera tant si vous ne n'achetez pas les briques chez moi. Après, c'est autre chose d'aller les pourchasser pour récupérer vos sous, mais c'est une sorte d'engagement moral pour que le client se dise, tiens, quand même, s'il me fait un plan, je m'engage un petit peu. Bon, c'est une sorte, c'est une forme d'engagement.
En conclusion, il faut prendre quelques risques, mais c'est un beau projet. Il est bien parti, MacArthur?
Il me semble bien parti parce qu'il y a un marché, il a un produit qui sont correspond aux besoins du moment.
Il y a de la place pour tout le monde, je pense. 60% de la population urbaine, africaine, vit dans des bidonvilles ou des logements peu décents. Ça fait 285 millions de personnes sur le continent. Ouais. Je pense qu'il y aura de la place pour tout le monde.
Il y aura de la place. Il faut trouver le mécanisme de financement de l'immobilier en Afrique. Et je sais que de plus en plus d'États s'engagent dans des gros programmes sociaux financés sur les ressources de l'État, sur les ressources des bailleurs. Donc effectivement, ça c'est autant de projets dans lesquels vous pourrez vous positionner pour développer votre business.
C'est sûr que financer la téléphonie mobile, c'est plus facile que de financer l'amélioration du logement pour les habitants. Mais on y vient, c'est le futur très gros chantier du continent africain. Je pense que vous êtes d'accord avec ça, Didier.
Ah bah oui, il faut loger les 2 milliards d'individus.
Ouais. Merci MacArthur en tout cas et bravo à vous. Bonne chance, tenez-nous au courant. Merci à vous, très bonne journée à Ouagadougou.
Merci beaucoup à vous et au revoir.
33 1 84 22 71 71. Vous continuez de nous appeler, on est avec le coach Didier Akwete. On se retrouve dans quelques instants.
Sociale, o colele paianani, o misere bonani.
Chagrin, bantou mental, ça c'est pour vous Didier Akwété. On est en 2020, le coach chez 7 milliards de voisins pour coacher les JPAG, les jeunes patrons de l'Afrique qui gagnent. Après notre ami burkinabé qui veut se lancer dans la construction durable dans les environs de Ouagadougou, on donne la parole à un voisin, Abraham, qui est à Bamako, Mali. Bonjour Abraham.
Bonjour Emmanuel, bonjour Didier.
Bonjour Abraham, très belle et heureuse année à Bamako.
Merci, merci, bonjour à vous.
On va parler de votre projet, Abraham. Vous avez 32 ans. Vous avez un master en sciences économiques à l'université de Bamako. Vous avez aussi obtenu un certificat Business and Entrepreneurship au CESAG de Dakar, où vous êtes d'ailleurs, vous séjournez en ce moment même, hein, mais sinon, vous êtes bien au Mali. Et vous avez créé, il y a un peu plus d'un an au Mali, Kone Événementiel. C'est une agence d'organisation d'événements pour particuliers. Vous faites beaucoup d'organisations de mariages. Vous travaillez aussi un peu pour des entreprises. C'est une petite équipe, quatre personnes. Ce qu'il faut dire d'abord, parce que je crois que c'est votre valeur ajoutée, c'est que vous êtes un peu né dans la marmite de l'événementiel vous-même, Abraham.
Bien sûr, comme on l'a dit, la vente ne s'enseigne pas, vaut mieux l'apprendre sur l'état. En fait, j'ai un père maître d'hôtel auquel j'ai passé beaucoup de temps auprès de lui. Mon papa travaille au Centre international de conférences de Bamako, CICV, il est maître d'hôtel là-bas.
Ouais.
Donc en fait, c'est au boulot, je l'ai embrassé. J'ai aimé et je me suis lancé.
Et donc maintenant, alors, on vous connaît grâce à du bouche à oreille notamment ?
Bien sûr, ça, grâce à du bouche à oreille, mais grâce aux nombreux programmes auxquels j'ai gagné, surtout le programme d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Lumelou. Je suis passé par le centre de leadership de Dakar. Maintenant, j'ai des supports numériques, et je communique bien, ça va, l'entreprise se porte bien.
Oui, c'est ça. Vous avez commencé sur le terrain, mais vous vous êtes formé également. En termes de prix, parce que vous n'êtes pas tout seul hein, quand même sur le terrain de l'événementiel, et puis il y a pas mal d'organisations, de conférences internationales à Bamako, etc. Comment vous faites pour survivre?
En termes de prix, je suis 20 fois moins cher que mes concurrents.
Non, 20% moins cher peut-être, mais pas 20 fois.
D'accord, 20% moins cher, d'accord.
Bien sûr.
Comment vous faites ?
Bon, en fait, moi, je dispose de beaucoup d'équipements. Je fais confiance à mon savoir-faire et surtout à une équipe dynamique. Donc, nous nous plaçons sur une niche. Les grands hôtels et palaces qu'ils font sont destinés à des personnalités VIP. Donc, nous nous plaçons juste en dessous de ça.
Vous déplacez aussi dans des villes selon le projet des clients ?
Bien sûr, selon les désirs des clients, nous nous déplaçons hors de Bamako même. Nous avons fait des marchés à Koulikoro qui se trouve à 60 km de Bamako. Et nous sommes allés une fois jusqu'à Mopti, dans le centre du Mali. à 600 km de Bamako.
Est-ce que le conflit au Mali, au Sahel, affecte votre activité?
Beaucoup, beaucoup. Surtout la rareté des clients de la diaspora, surtout qui venaient se marier au mois de juillet à Bamako, ou venaient organiser des conférences, des séminaires. Et vraiment, le spectre de la guerre joue sur nos entreprises. Nous avons plus de 60% des chiffres d'affaires de moins.
Ah oui, on parlait de la résilience jeunes patrons de l'Afrique qui gagnent dans les terrains fragiles ou en conflit. Ben, je crois qu'on est en plein dedans, Didier Akwete.
Oui, absolument.
Vous avez des questions au coach, Abraham?
Bien sûr. Lors d'un appel d'offres pour un événement, il était demandé une grande tribune climatisée pouvant contenir jusqu'à 500 personnes. Je ne pouvais de mon côté, pour des questions d'argent, fournir que 3 tribunes de 200 chacun. Je n'ai donc pas remporté l'appel d'offres de 12 000 euros. Quelle aurait pu être la solution malgré tout pour remporter l'appel d'offres, coach Didier? C'est ma première question.
Ça, c'était il y a 3 mois et c'est un échec qui vous est resté sur l'estomac d'avoir laissé s'envoler 12 000 euros de chiffre d'affaires.
C'est la vie d'entrepreneur, cher ami. Vous en verrez d'autres, Abraham. Alors, si vous voulez, vous êtes dans ce qu'on appelle une mer rouge en marketing, c'est-à-dire sur un marché où il y a beaucoup de compétition, avec des petits poissons, des moyens poissons, des gros poissons et des requins. Et donc, tout le monde se mange et les requins mangent tous les autres. Et donc, la mer devient rouge. C'est ce qu'on appelle être en situation dans un marché difficile où vous devez trouver votre stratégie. Donc, vous êtes un petit poisson dans cette mer rouge. Et c'est pour ça que vous allez rater un certain nombre d'appels d'offres. Et donc, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on construit des partenariats. Ça veut dire quoi? Lors de cet appel d'offres, qui était peut-être un peu gros, il aurait peut-être fallu vous allier à un concurrent qui devient un partenaire, dans le cas d'espèce, qui aurait pu fournir la troisième tribune. Et donc, au lieu de perdre 12 000 euros, vous partagez les 12 000 euros avec un partenaire ou un concurrent. C'est ce qu'on appelle la coopétition, c'est-à-dire la concurrence et la coopération, coopétition, où vous vous entendez avec un partenaire et un concurrent pour gagner un marché. Du coup, ça vous aurait permis de gagner, peut-être pas 12 000, mais 8 000 euros, mais de gagner cet appel d'offres et un client qui demain aurait pu vous confier un marché encore plus gros. Mais le fait de n'avoir pas pu apporter une réponse technique, vous avez été disqualifié sur un segment de marché qui n'était pas le vôtre, puisque actuellement vous êtes sur un segment de marché beaucoup plus petit.
D'accord.
C'est ce qu'on appelle les stratégies d'alliance lorsque vous êtes en phase de marché d'une certaine taille que vous ne pouvez pas couvrir. Alors après, l'alternative, si vous avez une entreprise qui tourne, qui est assez sérieuse et que la banque voit rentrer régulièrement des ressources, la banque peut dire « Abraham est assez sérieux, nous allons contribuer à hauteur de, je ne sais pas combien coûtait le stand. »
L'achat de la tente, c'est ça, pour 500
tente,
personnes
environ, pour 500 personnes, va dans les 8 000 euros.
Bon, très bien. Donc, la banque aurait pu dire, comme Abraham est sérieux et que le contrat qui était signé, en plus, va être un beau contrat, nous allons lui avancer 4 000 euros, il va chercher 4 000 lui-même et il va pouvoir acheter un stand, un gros stand qu'il va pouvoir ensuite louer à plusieurs personnes sur 2020 pour qu'il les rentabilise.
Donc, d'autant plus que l'affaire d'Abraham montait il y a un an et demi, il avait déjà mis 7 000 euros lui-même.
A l'air de bien tourner. Donc, deuxième scénario, la banque qui vous fait confiance, qui voit rentrer vos revenus régulièrement, vous lui dites « J'ai ce contrat, je vais domicilier le revenu de ce contrat chez vous. Si en plus, c'est, je sais pas, le centre international du congrès de Bamako, ou en tout cas un client assez sérieux, assez prestigieux, qui lançait l'appel d'offres, vous dites à la banque « Si je remporte l'appel d'offres, les revenus seront domiciliés chez vous. » Et donc, si vous me prêtez 4 000 euros, je vais mettre 4 000 pour acheter cette tente climatisée. Donc ça aussi, c'est un deuxième scénario possible. Troisième scénario qui arrive parfois.
Est-ce que c'est à Abraham de faire cette proposition à la banque? Ou c'est banque, quand on vient la voir, qui dit « Ah, j'ai cette solution à vous proposer ».
Généralement, la banque ne va pas vous proposer cette solution. En plus, quand vous êtes une PME, une TPE, la banque a d'autres soucis que de proposer 1000 solutions à 1000 PME ou TPE qui viennent la voir. Donc, c'est malheureusement à l'entrepreneur de construire des solutions. Clé en main, aller voir le banquier. Le banquier, lui, va dire « Bon, ok, je peux couvrir mon risque. Donc, je vois comment je peux couvrir mon risque. Et je fais confiance à Abraham. Donc, je peux. » Donc, troisième scénario. Si celui, le client qui fait la commande, donc vous faites du bluff généralement, vous répondez à l'appel d'offre, vous dites « oui, j'ai tout ce qu'il faut, je peux vous servir ». Et puis une fois que vous gagnez l'appel d'offre, vous dites au client « effectivement, j'ai deux tentes, mais pas trois ». Donc, si vous me préfinancez le marché assez rapidement, donc si vous deviez me payer 50% d'acompte à la signature, eh ben, payez-moi 70%, ou si vous devez payer 30%, payez-moi 50-60%, et avec ça, vous préfinancez une partie du stand et vous négociez avec le fournisseur qui accepte que vous le payiez 30 jours après, une fois que vous avez encaissé l'argent du client. C'est des solutions que chaque entrepreneur utilise.
Bon,
c'est
trois juste solutions. Trois idées. J'espère que vous avez pris des notes, Abraham.
Qui aurait pu vous servir dans le cas d'espèce.
Vous avez une autre question, Abraham?
Oui. Ma deuxième question au quotidien. Les bénéfices actuels que je génère ne sont pas assez suffisants pour que je développe mon entreprise à grande échelle. Quelle solution pourrait exister pour ce type de marché?
D'autant plus que cette agence d'événementiel, elle connaît moins 60% de chiffre d'affaires du fait des événements
au Mali. Effectivement, vous êtes dans la situation de toute jeune entreprise qui doit se développer. Comme vous n'avez pas les moyens de financer votre développement, vous ne pouvez financer votre développement que soit par un peu d'argent frais, donc augmenter vos fonds propres, en faisant, comme vous l'aviez fait au début, un peu du love money, du friends and family, qui vont remettre un peu d'argent pour que vous réinvestissiez un petit peu en infrastructure. Donc, vous allez devoir certainement trouver un peu d'argent. Donc, soit
autour, dans la famille, autour des amis, etc.
Par des fonds propres, avec du love money, ou alors... Si une banque accepte à ce moment-là de dire « Tiens, je sens que le potentiel d'affaires de Abraham est en pleine croissance et vous avez des nouveaux contrats qui arrivent », va dire « Bon, je peux vous avancer les ressources puisque vous avez des contrats qui vont arriver ». Ou alors, malheureusement, quand aucun de ces scénarios n'est possible, vous devez augmenter votre volume d'affaires. Et pour augmenter votre volume d'affaires, vous allez peut-être devoir aller voir des gros prestataires qui ne s'intéressent pas à certains petits marchés pour qu'ils vous fassent de la sous-traitance. Donc, vous allez voir un gros prestat pour qui un petit marché de 5 000 euros n'intéresse pas, 3 000 euros n'intéresse pas, 10 000 euros n'intéresse pas. Et vous dites, tiens, moi, je vais faire une partenariat avec vous. Les petits marchés, vous me les donnez en contrepartie. Je vous rétribue, je vous laisse 10% ou 15%. Et du coup, la grosse entreprise qui, généralement, ne regarde même pas ces marchés ou ces appels d'offres, se dit, tiens, avec Abraham, on va pouvoir servir le petit marché et comme il va nous reverser 10 à 15% du business qu'on lui donne, ça nous fait aussi un petit volant d'affaires qui peut toujours servir les fins de mois.
Sans se fatiguer beaucoup. Abraham, c'est quelque chose que vous avez déjà approché vos concurrents ou bien tout le monde se regarde dans la méfiance généralisée?
Non, on ne se regarde pas en chien de faïence. J'ai conclu beaucoup de partenariats. Surtout avec Smart Media, oui, c'est dans ce canevas que j'ai réussi à organiser la soirée de lancement du festival des marionnettes de Marcala.
Ah, super.
Très bien. Non, mais plus vous avez des contrats de ce type, et si en plus c'est des contrats que vous arrivez à signer pour 2-3 éditions, là, ça vous donne la visibilité. Et généralement, c'est un peu ce que nous recherchons tous, avoir de la visibilité sur les marchés. Et donc, s'il y a des contrats qui peuvent se renouveler, là, vos partenaires financiers sont confortables. Parce qu'ils disent, tiens, il a une visibilité sur 2-3 ans. Et donc, il peut vous donner un peu plus de ressources financières.
Abraham, est-ce que vous êtes satisfait des conseils de Didier Akoté?
Entièrement satisfait, comme toujours. Entièrement satisfait. Et je suis très ravi. J'espère que ces conseils me serviront.
Allez, il faut persister.
Nous étions ravis aussi, Abraham. Et bon séjour à Dakar.
Et bonne chance à vous donc, pour Koné Événementiel, hein, qui continue sur sa route modeste pour le moment. À Bamako, au Mali. Très bonne journée à vous, Abraham. Merci de nous avoir appelés.
Merci, ciao.
7 milliards de voisins.
T'as un projet, t'as un business plan, alors viens en parler au coach.
JPAG, jeune patron de l'Afrique qui gagne.
Vraiment, l'Afrique regorge de talent.
33 1 84 22 71 71, c'est le numéro de téléphone et le WhatsApp que vous pouvez composer. Pour tous ceux qui n'auraient pas le temps d'appeler maintenant ou qui ne seraient pas encore suffisamment au point pour parler de leur business plan, de leur projet, vous savez que de toute façon, le coach passe tous les mois dans l'émission 7 milliards de voisins. Allez, on donne la parole maintenant à un voisin qui est à...
Abéché, au Tchad.
Merci Didier, vous allez bientôt présenter l'émission à ma place. C'est Hassan qui est au téléphone avec nous, 37 ans. Bonjour Hassan.
Bonjour Emmanuel, bonjour Coach Didier.
Bonjour Hassan.
Hassan, vous êtes en plus un mondo-blogueur, hein, je crois.
Oui, je suis un mondo-blogueur de la première promotion.
Alors
donc,
Hassan...
RFI, j'en connais un peu mieux.
Assad, vous avez plusieurs casquettes parce qu'en fait, vous êtes infirmier diplômé d'État à l'école de santé d'Abéché. Et c'est difficile de vivre en tant qu'infirmier. Donc, vous avez créé, il y a un an, un petit business, tout petit pour le moment, qui s'appelle Sebio Tchad, qui est une entreprise de production et de commercialisation d'oignons biologiques. L'entreprise est encore informelle. Je sais que vous misez beaucoup là-dessus. Pourquoi de l'oignon ?
L'oignon, c'est le produit le plus consommé ici à Abéché. Bon, au Tchad, d'une manière générale, et plus particulièrement à Abéché, il ne se passera pas une seule journée où la personne ne goûtera pas l'oignon. Mmh. En fait, dans tous les ménages, dans toutes les marmites, même au restaurant, à l'hôtel, partout où on mange les sandwichs chéris, partout on trouve de l'oignon. Mmh. Voilà pourquoi l'oignon.
Et cet oignon, pour que vous proposiez de l'oignon bio, ça veut dire qu'il est cultivé d'habitude avec beaucoup d'engrais chimiques, de pesticides ?
Oui, il est cultivé d'habitude. Il y a beaucoup de producteurs d'oignons, mais pour beaucoup produire, ils utilisent des pesticides, les engrais chimiques. Mmh. Et moi, étant agent de santé, je connais un peu... le méfait de ces produits chimiques-là sur la santé, sur l'environnement aussi. Mmh. Alors, pour trouver une solution pour que, à long terme, toute la population d'Abéché ou bientôt les Tchadiens n'aient pas ce problème, j'ai proposé faire la même chose, mais ajouter quelque chose de plus. Et le fait que ça soit bio.
Oui, que ça soit bio. Et vous êtes infirmier, il ne faut pas l'oublier. Pour l'instant, vous avez acheté une parcelle d'un hectare, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Avec un puits ?
Je l'ai acheté, sur fonds propres, voilà, avec un puits traditionnel. Ça, c'est une opportunité, un avantage pour moi. Mmh. J'ai acheté également une motopompe avec tous les accessoires. Voilà ce que j'ai pour le moment, pour commencer. Mmh.
Vous n'êtes pas novice hein, dans l'agriculture, vous avez déjà cultivé des légumes. Vous êtes une toute petite équipe, vous avez gagné le 3e prix de l'Office national de la promotion de l'emploi, l'ONAPE, qui prévoit une aide financière, d'ailleurs sous forme de microcrédit, je crois. Vous avez reçu ce microcrédit ?
Non, pas encore. En fait, c'était dans le cadre du projet La Voix de la Jeunesse des Jeunes d'Israël, piloté par le Centre pour le Dialogue Humanitaire HD. Mm. Ils ont organisé une foire des opportunités économiques où j'ai postulé avec ce projet. J'étais présélectionné, j'étais également sélectionné. Et je devrais recevoir une somme de 3 millions pour commencer, mais malheureusement jusqu'à là. Je n'ai encore rien reçu.
Ça fait combien de temps ?
Ça fait 6 mois, c'est depuis juillet 2019.
Ah oui.
Alors là, ça ne va pas du tout.
Ouais. Eh bien voilà, on le dit à l'antenne, hein, comme ça. Alors vous avez des questions pour le coach Didier Akwété ?
Oh, oui, j'ai des questions, mais avant les questions, en fait, je n'attends pas ce financement. Avec le peu que j'ai, je continue quand même à faire ce que je peux. Et puis voilà, maintenant que la question pour le coach Didier... Comment bien informer ma clientèle, en fait, sur le produit, sachant que je mets en devant, je mets avant le fait que ce sont des produits bio et que ce sont des produits qui sont bons pour la santé. Mmh,
mmh. Et puis la deuxième question ?
La deuxième question, en fait, d'après mes expériences, quelquefois, comme je faisais un peu la chose, quand je fais et qu'il n'y a pas une bonne récolte, j'ai du mal à payer mes employés parce que j'utilise mes économies et ça pèse sur moi. Alors, quelle pourrait être la solution ? On ne le souhaite pas, mais voilà, laisse que les récoltes soient mauvaises. Mmh. Quelle solution pour trouver un compromis ?
Oui, parce que cette culture de l'oignon, ça doit être un deuxième revenu pour vous qui êtes infirmier. Il ne faut pas que ça vous mette sur la paille, hein, sinon ce n'était pas le but de départ. Alors déjà, mettre en avant la spécificité de ces oignons bio, Didier Akwété.
En fait, si vous voulez, je crois que c'est l'idée, c'est que vos consommateurs, quand ils pensent à vous, ils pensent produit sain, produit bon pour la santé. Donc, vous voulez créer une association d'images. Et donc, pour créer cette association d'images, le fait que vous soyez aussi infirmier vous donne aussi, entre guillemets, une sorte de tampon...
De légitimité, finalement.
C'est ça, exactement. En plus, il est dans le domaine de la santé, c'est bien. Et en réalité, la façon dont vous créez cette association d'images, c'est qu'au lieu de parler des oignons, vous parlez de santé. Et donc, quand vous parlez santé, on dit que c'est Cébio qui parle santé, donc qui conseille. Donc si vous arrivez à prendre sur les réseaux sociaux des petites vidéos que vous diffusez sur les téléphones des gens, vous prenez des petites images que vous imprimez, vous distribuez dans les espaces où vous vendez vos produits, bref, à chaque fois que vous pouvez, sans que ça vous coûte cher, c'est-à-dire c'est des supports qui existent déjà, qui parlent de santé et de produits bio, les gens se diront « Ah tiens !»
Hassan, infirmier, vous parle de produits bio, c'est ça.
Exactement, on va dire « Mais c'est bio ?» Dis donc, Cébio parle de santé, de bien-être, nous donne les bons conseils. Eh ben, nous allons acheter des produits Cébio. Donc, vous commencez à créer ce qu'on appelle donc une association d'images, sans que ce ne soit vous qui produisiez en fait le contenu. Donc, trouvez un maximum de contenu. Bon, comme vous êtes à Béchet, personne ne viendra vous chercher, à mon avis. Bon, c'est peut-être pas bien ce que je dis, mais sans créer le contenu, vous prenez des contenus disponibles qui sont libres de droit. Et bah, c'est ces bio qui ont fait la promotion sur les questions de santé, etc., etc., en mangeant bio, en mangeant sain, donc manger les produits, c'est bio. Donc, ça, c'est un peu l'action marketing que vous pourriez faire de manière économique, pour que vos clients pensent à vous et viennent vers vous, puisque c'est ça que vous recherchez.
J'imagine que ça, vous le faites peut-être déjà un peu à l'oral quand vous rencontrez des clients, non, Hassan ?
Voilà, le fait que je travaille dans la santé, le fait que, bon, en plus de ça, je suis aussi artiste-comédien, je fais un peu aussi la radio, donc j'utilise tous ces canaux-là pour passer le message. Merci, coach. Par rapport à ça, j'ai aussi créé une petite page Facebook aussi bio. Alors, je peux chercher des contenus et puis diffuser cela sur la page.
C'est ça, qui ne soit pas directement axé sur votre produit, hein, mais sur les bienfaits du bio en général.
C'est ça.
Pour que ceux qui vous suivent apprennent des choses.
Exactement. C'est bio qui fait de l'information. Ça ne va pas forcément vous coûter très cher, hein, c'est-à-dire même mettre des petits posters dans les hôpitaux, dans les centres de santé, devant des petites supérettes, tout ça, vous leur donnez, ils mettent ça devant. Et puis, dès que vous avez un client, vous prenez son téléphone, vous lui envoyez après une petite vidéo sur la santé. Vous allez fidéliser assez rapidement une clientèle dans un marché relativement délimité. Et donc, vous pourrez à ce moment-là devenir le champion de la bio. Alors, par rapport à la deuxième question.
Ah, c'est bon, oui, Chad. Oui. Et puis, je peux aussi utiliser le fait que je suis mondoblogueur, donc sur...
Bien sûr.
Mon blog, je peux aussi faire quelque chose.
Absolument. Vous voyez, vous avez toutes les réponses déjà. Sur la deuxième question, en fait, bon, c'est une question qui n'échappe pas à qui que ce soit dans un secteur où vous êtes monoproduit. En fait, c'est votre problème de fait de ne proposer aujourd'hui que de l'oignon. Donc forcément, votre risque est d'autant plus élevé que si vous avez une mauvaise récolte, vous ne pouvez pas satisfaire votre marché. Et donc, vous devez soit trouver des sources d'approvisionnement qui vous garantissent la disponibilité du produit lorsque votre produit à vous n'est pas disponible. Donc, trouver d'autres producteurs d'oignons bio qui vous vendront probablement plus cher, mais vous aurez un impact sur le prix. Ou alors, vous diversifiez un petit peu vos produits. C'est-à-dire, l'oignon a fait votre succès, vous continuez. Peut-être maintenant, c'est un peu de tomates bio ou un autre produit qui se vend bien pour commencer à rentrer dans la diversification de votre offre produit.
La tomate est compliquée à transporter et elle se périme vite rapport à l'oignon.
Ou d'autres produits, mais en tout cas, c'est un exemple.
Le gombo vert.
Mais en tout cas, regardez
rapidement.
Vous
en avez fait par le passé, mais vous avez dit que c'était des rendements trop faibles. Mais néanmoins, ça pourrait permettre de constituer un petit matelas de sécurité.
C'est ça, c'est pas grave. Ouais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qu'on appelle le portefeuille produit, vous savez, si vous allez sur Internet, vous avez certainement vu ça, ce qu'on appelle la matrice des produits. Vous avez des produits qui ne vous font pas gagner beaucoup d'argent, mais de par leur volume, vous constituez un matelas. Vous avez des produits qui se vendent très bien, qui ne sont pas forcément des produits à volume, mais avec des marges extrêmement élevées. Donc, si vous regardez un peu ce qu'on appelle la matrice des produits, vous allez avoir un petit portefeuille produit qui vous permettra d'éviter le problème de saisonnalité ou de non-disponibilité d'un produit si vous ne faites qu'un seul produit, en sachant que chaque produit répond à une stratégie dans votre portefeuille.
Hassan, on a répondu à vos questions, je pense.
Vraiment, vous avez répondu pas seulement à ces questions, mais aussi à d'autres questions que je me posais en dehors de ces questions. Merci beaucoup.
Eh bien, bonne chance
merci
à vous, Hassan.
Merci
en tout cas à vous tous. Moi, ce que je remarque...
Et nous avons hâte de goûter ces oignons. Oui. Il faut nous les livrer, ces oignons, voyons.
Un petit paquet. Hein. Je remarque, Didier, à côté, quand même, que de plus en plus, les jeunes, les moins jeunes qui nous parlent de leurs projets sont déjà sur de bonnes pistes. Mais ils ont énormément besoin d'être rassurés par un professionnel comme vous. De dire, c'est donc bien le bon choix que j'avais fait. Hein. Vous remarquez ça?
Non, effectivement. Si vous voulez, les gens partent du bon sens, c'est-à-dire d'un besoin. Ils constatent qu'il y a un besoin sur un marché et ils vont l'adresser. Ils vont adresser ce besoin, mais pas forcément en partant d'une logique marché ou d'une logique marchand. Donc, premier raisonnement, je réponds à un besoin, ce qui est très bien. Et donc, la suite, comment je rends ce business profitable si je me mets dans une logique marché, marchande, avec une stratégie. Et malheureusement, dans la plupart de nos pays, où malheureusement les entrepreneurs ne bénéficient pas de ces formations, de ces conseils avant ou pendant qu'ils sont déjà en exécution, c'est ce qui est bien.
Donc ils ne savent jamais s'ils sont sur la bonne piste.
Mais c'est ça, ils se sont jetés à l'eau, ils sont déjà en train de surnager, d'essayer de nager. Et donc c'est là où le maître nageur dit, c'est bien, fais le mouvement comme ça, tu vas voir, ça va être plus fluide, tu vas aller plus vite, si tu veux ralentir, respire comme ça, sors la tête de l'eau. Et donc, c'est cet espace de coaching qui manque à ces jeunes et qui peut se faire, soit ce qu'on fait à RFI, ou se fait par les réseaux sociaux, se fait par des centres d'apprentissage communautaire. C'est dans ça qu'aujourd'hui, on doit investir massivement pour accompagner ces jeunes entrepreneurs, parce que les statistiques le montrent. L'Afrique, c'est le continent où il y a le plus d'auto-entrepreneurs, où il y a le plus d'entrepreneurs jeunes, par défaut aussi, parce qu'il n'y a pas assez d'emplois. Et donc, si on peut mettre de plus en plus en place ces structures d'accompagnement pour le plus grand nombre, à travers les réseaux sociaux, on répond à un vrai besoin, parce que c'est vraiment là, comme vous le dites, où aujourd'hui un déficit. Parce que même ceux qui vont à l'école, on ne leur apprend pas tout ça. Ceux qui vont à l'université, aujourd'hui, on doit avoir des modules entrepreneurship à l'université. Ce n'est pas parce qu'on fait de la sociologie, ce n'est pas parce qu'on fait du droit, ce n'est pas parce qu'on fait de la science économie qu'on ne doit pas comprendre les rudiments de l'entrepreneuriat.
Et on le voit, de plus en plus de voisins qui ont un autre métier se lancent dans l'entrepreneuriat. Ici, un infirmier, une autre fois, un enseignant de français qui veut aussi devenir entrepreneur. Et certains réussissent, il ne faut pas se décourager. Les voisins, on est désolé pour ceux qui n'ont pas pu passer, mais chez les JPAG, il y a toujours une session de rattrapage, hein, ça s'appelle le mois prochain. Didier à côté. On compte sur vous le mois prochain.
Je serai là, évidemment, Emmanuel.
L'émission était préparée par Delphine de Dianous, Romain Dubrac. Bien sûr, vous réécoutez toutes nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio et vous réécoutez les conseils du coach. Merci à vous, Didier, d'être
merci
passé
Emmanuel
chez les 7 milliards de voisins.
Et puis, on vous bonne année encore à tout le monde.
Et très bonne année aussi à vous, le coach, et les entrepreneurs, les jeunes patrons de l'Afrique qui gagnent.
Et à Romain Dubrac.
Demain, 7 milliards de voisins, on parlera des grands travaux pour les compétitions sportives. Quel intérêt pour les habitants? Les voisins, si un stade est en train de pourrir pas loin de chez vous, c'est le moment de nous appeler 33 1 84 22 71 71. À demain!